L'apôtre Paul s'entoure en fait de collaborateurs et de collaboratrices. Alors on ne le dit peut-être pas assez, il avait des femmes, diacres, apôtres dans ses équipes pour organiser les églises. Et parmi ses collaborateurs, un de ses plus proches et de ses plus fidèles est un homme du nom de Tite. Il est d'origine grecque, il a été converti par Paul à la foi chrétienne et Paul le charge souvent des missions délicates. On le voit à Corinthe, où il débloque une situation fort tendue entre différents courants dans cette église. Et la lettre de Paul à Tite, que nous avons donc dans notre Bible, se situe une dizaine d'années plus tard. Paul le charge maintenant d'aller organiser l'église de Crète. Dans cette lettre, Paul affine une stratégie claire fondée sur un résumé de l'évangile de Jésus-Christ en un point essentiel dont il montre l'incroyable puissance pour transformer nos vies et favoriser un bel engagement des personnes pour la paix et pour les progrès de tous. Et donc cette mission de Tite en Crète, ce ne pourrait être qu'une anecdote effectivement dans l'histoire, c'est vrai. Seulement, si elle nous intéresse, c'est que nous sommes les Tites d'aujourd'hui, appelés à refonder notre existence dans la confiance en Dieu. Et puis nous sommes aussi, comme Tite, appelés à rayonner autour de nous et à changer le monde. Voilà qui serait bon et qui serait utile pour les humains, nous dit Paul dans ce passage. Donc c'est au chapitre 2 de la lettre de Paul à Tite à partir du verset 11. Elle a été manifestée, la grâce du Dieu Sauveur, pour tous les humains. Elle nous éduque afin que, renonçant à l'impiété, renonçant à nous laisser gouverner par les désirs de ce monde, nous vivions dans un temps présent avec sagesse, avec justice et avec piété. Nous attendons l'heureuse et dynamique espérance. Nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous émanciper de toute iniquité et de se purifier un peuple précieux et passionné de belles actions. Cher Tite, c'est ainsi que tu dois parler, que tu dois encourager, que tu dois exhorter avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être respectueux des responsables et des autorités, de les écouter afin d'être prêts à toute œuvre bonne, de n'injurier personne autant que faire se peut, de ne pas être querelleur, d'être indulgent et de faire toujours preuve de douceur envers tous les humains. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, passant notre temps dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous détestant mutuellement. Cependant, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les humains, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement de l'Esprit-Saint qu'il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, justifiés par sa grâce, nous devenons héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. C'est là une parole de foi. Et je souhaite que tu l'affirmes ardemment, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent alors à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et qui est utile pour tous les humains. Ô Éternel, donne-nous, oui, ton esprit, afin que par l'étude de nos Écritures anciennes, nous recevions, chacune et chacun, la parole vive que tu nous adresses au fond de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En premier lieu, Paul pose donc les bases de ce qu'est pour lui l'Évangile du Christ. Effectivement, on ne construit du solide et du beau que sur de bonnes bases, des fondations fermes, solides et belles. Voilà ce qu'il nous dit, son résumé de l'Évangile. Elle a été manifestée, la grâce du Dieu Sauveur, pour tous les humains. Et c'est une grande nouveauté. Jésus a parlé de cette grâce de Dieu de mille façons, mais ce sont plus que des belles idées. Il l'a manifestée, nous dit Paul, d'une façon tangible, concrète, avec des impacts sur notre vie. La grâce de Dieu pour tous les humains. C'est son amour inconditionnel pour chaque personne, quoi qu'il arrive. Dieu est grâce. Dieu est amour pour chaque personne, affirme Paul. Et il ajoute que Dieu est sauveur. Ce second point est important, voire plus important encore que le premier point, Dieu est amour. Car certains entendaient la grâce de Dieu au sens que, oui, Dieu nous aime inconditionnellement, au sens où il nous a ouvert la porte de la vie véritable, de la vie éternelle. Elle est grande ouverte pour nous, seulement, selon ces théologiens, encore faut-il que la personne choisisse d'entrer par cette porte. Sans la foi de la personne, la grâce de Dieu serait inopérante. Des églises précisent même, bien sûr, que c'est pas seulement un petit début de foi qui permettrait de se faufiler à travers la porte de la grâce de Dieu. Il faudrait, bien sûr, la vraie foi, au sens de leur Église, avec le sceau des vrais rites faits comme il faut, et bien sûr avec une vie qui reste bien dans le cadre des règles établies. Sinon, la porte de la grâce aurait beau avoir été ouverte, grand ouverte par Dieu en Christ, cela ne nous servirait à rien. Cette théorie, cette façon de comprendre la grâce de Dieu est source de bien des culpabilités, de bien des peurs. Car effectivement, est-ce que nos convictions sont à 100%, à 200%? Est-ce que notre foi en Dieu est celle de Jésus-Christ? Est-ce que notre vie est nickel chrome même dans les petits recoins? Bien sûr que non. Et donc c'est source d'angoisse, finalement, source même aussi de bien de rejet des autres, même parfois de nos plus proches, brisant les couples, brisant les familles, les amitiés. J'en reçois hélas le témoignage chaque semaine sur Internet par le site que j'anime pour notre Église. Il est donc génial que Paul précise que Dieu est amour, amour inconditionnel, mais pas seulement, il est aussi sauveur. Non seulement il nous a ouvert la porte, c'est la grâce, mais en plus il nous porte, comme le berger dont parle Jésus dans la plus célèbre de ses paraboles, la parabole de la brebis perdue. Jésus nous dit que Dieu finira toujours par retrouver même la plus perdue des brebis perdues et qu'il la porte sur ses épaules vers la vie, même si elle n'a pas la force de marcher. Donc, c'est le salut pour tous les humains. Et c'est probablement la spécificité de l'Évangile du Christ. La grâce du Dieu Sauveur pour tous les humains. Et donc pour vous en particulier, puisqu'apparemment nous faisons partie de tous les humains. C'est en réalité une grande nouveauté par rapport à certains textes de la Bible disant quelque chose comme le psaume 33 que nous avons joyeusement chanté tout à l'heure. la faveur de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin qu'il arrache leur âme à la mort et les fasse vivre au milieu même de la famine. Alors merci pour les autres, merci pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, merci pour ceux qui le méconnaissent, merci pour ceux qui passent à côté, ils n'ont aucune chance. Quel parent digne de ce nom mettrait comme condition pour sauver leur petit que ce petit se laisse sauver, ou qu'il supplie ses parents suffisamment bien, ou qu'il le craigne? C'est pourquoi nous relisons ces textes de l'Ancien Testament à la lumière de cet évangile, celui de la grâce du Dieu Sauveur pour tous les humains. Alors c'est aussi une spécificité du Christ par rapport à des religions ou des philosophies qui sont basées sur la comptabilité des mérites et des fautes. C'est une rupture par rapport à cette logique, bien sûr, cette logique qui est la célèbre loi du plus fort, du plus performant, du plus grand, la loi de la jungle. La grâce du Dieu Sauveur sur tous les humains, c'est une théologie, une façon de comprendre comment Dieu fonctionne. Paul ne nous dit pas qu'il arrive à Dieu d'aimer ou de sauver telle ou telle personne, mais que Dieu est amour et que Dieu est sauveur. C'est-à-dire que c'est sa nature. Comme l'eau est mouillée et comme le feu brûle, Dieu est grâce, amour inconditionnel et sauveur pour tous. Il ne peut pas faire autrement que de nous aimer et de nous sauver. Il ne risque donc pas d'en avoir assez si nous le lassions ou si nous serions trop nombreux pour qu'il s'occupe ailleurs. C'est garanti sur facture, sans petite note en bas de page, sans entourloupette. Paul nous dit que cette nature profonde de Dieu a été manifestée en Christ. Alors manifestée, vous connaissez ce mot dans le grec du Nouveau Testament, puisqu'effectivement c'est le mot « épiphanie », de « épi » alentour et « phanein » illuminé. Cela signifie que cette façon d'être de Dieu, d'aimer et de sauver, va rayonner sur le monde entier, mais aussi sur toutes les dimensions de notre être, jusque dans les détails de notre façon d'être avec ceux qui nous entourent, ce qui ne serait effectivement pas le moindre des miracles du Dieu puissant. Paul explique, cette grâce du Dieu Sauveur nous enseigne. Là aussi, vous connaissez le mot grec qui est derrière ce verbe « enseigner » en français. C'est celui qui a donné le mot « pédagogie » de « païs », l'enfant. Pour Dieu, nous sommes comme son enfant, son tout petit. Alors bien sûr que nous avons une toute petite foi. Bien sûr que nous sommes plus souvent déprimés que rayonnant encore d'une espérance invincible, que notre comportement est parfois un peu petit, un peu mesquin. D'accord, d'accord. Mais on ne peut pas en vouloir à un enfant d'être petit. C'est pourquoi, justement, Dieu nous élève comme des parents, de bons parents, élèvent leur enfant. Ils travaillent avec pédagogie, à nous élever dans notre foi, dans notre intelligence de la vie et puis aussi dans notre comportement très concret, très pratique avec les autres. Cela passe d'abord par une émancipation. Alors là aussi, il peut y avoir méprise, parce que dans la culture hébraïque, contrairement à la pratique grecque, les esclaves n'étaient pas libérés contre rançon. Dans la culture hébraïque, dans la Bible, ils étaient libérés de droit, par décret divin. Par exemple, lors d'une année jubilaire, une année de grâce, comme celle que Jésus publie à haute voix dans la synagogue de Nazareth. Le sacrifice du Christ dont parle ici Paul, ce n'est pas donc le paiement d'une rançon, comme ça le serait pour émanciper des esclaves dans la culture grecque, mais c'est, au contraire, elle manifeste la grâce de Dieu Sauveur. Elle nous éduque, elle nous fait expérimenter que vivre, c'est vivre en aimant, c'est vivre en se souciant de l'autre, de manière à essayer de le sauver, un tout petit peu, comme nous le pourrons. Ensuite, Paul parle de nous aider et de faire que nous puissions aussi aider peut-être d'autres personnes autour de nous, en étant plein d'une heureuse espérance. Alors c'est un bonheur, et c'est aussi une façon d'avancer vers l'avenir d'une façon confiante et positive. Aujourd'hui, ce genre de qualité, d'avoir une heureuse espérance dynamique, n'est pas moins nécessaire, bien sûr, qu'à l'époque de Paul, parce qu'il y a du boulot à faire. Et donc cette espérance heureuse et dynamique, c'est une ambitieuse visée divine, mais pas abstraite. Elle débouche sur des actes et sur une façon d'être dans la vie de tous les jours. Faire du bien quand l'occasion se présente, rendre la vie autour de nous plus facile pour tout le monde, plus constructive et plus belle. Rien d'immense apparemment. Et pourtant, nous dit Paul, voilà qui est beau et qui est utile pour tous les humains. Ce chemin d'émancipation, il passe, nous dit Paul, par notre éducation sur trois compétences précises: la sagesse, la justice et la piété. Alors c'est un programme d'approfondissement et donc d'entraînement pour nous à faire, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Cela mériterait largement trois prédications, mais le temps est court, comme le dit Paul ailleurs, et ce sera donc seulement trois mots ou trois encouragements à vous-même creuser cela personnellement dans votre réflexion et dans votre prière. Premièrement donc, notre sagesse, notre philosophie de vie, elle gagne à être éclairée, libérée, éduquée, inspirée par la grâce du Dieu Sauveur, par le souci de l'autre, par le non-jugement. C'est ce que Paul décline ici par des exemples pratico-pratiques dans son style inimitable et assez pénible, je reconnais. En deuxième lieu, notre recherche de ce qui serait juste de faire. La sagesse nous a déjà éclairé là-dessus d'un point de vue théorique. Par Jésus-Christ, nous savons le tout du tout de ce qui serait juste et bon de faire. Mais là, ce qui est en cause, c'est de discerner ce qui serait juste que je fasse, moi, aujourd'hui et maintenant. Et ça demande donc un discernement personnel. L'Esprit Saint n'est pas de trop. Enfin, notre piété, c'est le troisième pilier essentiel de notre vie. C'est peut-être le culte que nous vivons ensemble. C'est peut-être votre prière du soir ou du matin ou sur la douche ou comme vous voulez, quand ça vous prend. C'est dans la piété que nous nous exposons à cette grâce du Dieu Sauveur, que nous nous exposons comme une personne qui désire bronzer sur la plage s'expose aux rayons du soleil en se mettant à nu. Nous nous exposons à cette grâce du Dieu Sauveur afin qu'elle fasse son œuvre, qu'elle nous imprègne, qu'elle nous libère d'un reste de n'importe quoi qui nous retiendrait encore prisonniers, qu'elle nous inspire, qu'elle nous donne un zeste de joyeuse espérance qui nous fasse bondir sur nos pattes, qu'elle nous donne cette intelligence du cœur. Et cela nous donnera peut-être de faire une ou deux belles petites choses qui ne seront pas si mal. Ce ne sera pas pour briller aux yeux des hommes ou gagner des bons points aux yeux de Dieu, donc, mais simplement parce que c'est beau, que c'est utile aux humains et donc que c'est formidablement réjouissant. Dieu vous bénit et vous accompagne toujours vers le meilleur. C'est garanti.